Et question ce matin sur l'avenir du climat en France et dans le monde à la faveur des récentes études sur les projections des températures. En attendant, pour la France, le projet de loi de la Convention citoyenne sur le climat, ce sera la semaine prochaine. On va en parler avec nos deux invités. Céline Guivarch, vous êtes directrice de recherche au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le CIRED. Et vous participez aussi à la rédaction du prochain rapport du GIEC sur les mesures à adopter pour limiter le changement climatique. Invité également Jean-Michel Soubérou, vous êtes directeur adjoint de la climatologie à Météo France et c'est vous qui avez coordonné les projections climatiques de Météo France pour la fin du siècle. Bonjour à tous les deux. Jean-Michel Soubérou, bonjour. On va commencer avec vous. Les conclusions de Météo France, donc publiées cette semaine, elles prévoient donc une possible hausse de 3,9 degrés. Et même jusqu'à 6 degrés en été sur la période 2070-2100. Ça veut dire quoi, Jean-Michel Soubérou? Ça veut dire plus d'épisodes extrêmes de canicule ou de pluie?
Oui, bonjour à tous. Donc évidemment, c'est le scénario du pire.
Oui, il y a plusieurs scénarios, on va les évoquer.
Voilà, donc on n'est pas obligé d'aller sur cette trajectoire-là. Et puis,
espérons.
Et Céline Guivarch pourra peut-être en expliquer finalement les possibilités de l'éviter. Mais effectivement, donc si on est sur un scénario de poursuite de fortes émissions au niveau planétaire, donc ce sont ces températures-là que l'on pourrait atteindre en France. Donc c'est évidemment considérable, une hausse de 4 degrés en moyenne et voire de 6 degrés l'été, avec donc à ce moment-là, donc ce qui est expliqué dans ce rapport, un nombre de vagues de chaleur et une durée des vagues de chaleur, quelque chose de tout à fait inédit que l'on n'a jamais connu dans notre climat, et notamment aussi en termes d'inconfort la nuit, l'été, avec des températures nocturnes qui resteraient très élevées.
Et ça concernerait de façon unanime toutes les régions françaises. Quelles seraient les régions qui seraient le plus bouleversées par la surchauffe à la fin du siècle en France?
Alors évidemment, cette hausse des températures, elle est relative au climat qui existe aujourd'hui en France. Donc on ne va pas bouleverser, enfin en climat futur, donc l'équilibre des climats serait bien sûr respecté. Mais donc les régions, ce sont les régions les plus chaudes aujourd'hui qui se réchaufferaient, qui atteindraient peut-être les niveaux maximum. Mais je crois que le message, c'est de dire que toutes les régions de France seraient touchées. Je pense que ce serait le message le plus juste, à mon avis, parce que proportionnellement au climat actuel, je pense que toutes les régions de France connaîtraient de forts bouleversements.
Mais vous parlez de vagues de chaleur. Les vagues de froid et les chutes de neige ne remettent en aucun cas en cause le changement climatique.
Non, pas du tout. Donc aujourd'hui, donc notre climat, le fait d'avoir des épisodes de neige comme on a connu ce début d'année, c'est quelque chose donc qui fait partie de notre climat. Et d'ailleurs, quand on fait des études sur 50 ans, ce que l'on voit, c'est que cette fréquence des chutes de neige, elle a diminué. Et d'ailleurs, donc si elle a peut-être bouleversé un petit peu le quotidien dans certaines régions, c'est parce qu'on en avait un peu perdu l'habitude. Mais pour autant, donc on voit que ces épisodes-là deviennent, et les épisodes de froid, ils deviennent moins intenses. Pour autant, quand ils se produisent, donc ils peuvent provoquer des difficultés parce que peut-être nos concitoyens ou nos organisations sont moins habitués à les rencontrer. Donc voilà, ces événements diminuent, mais ils restent encore un petit peu présents dans notre climat et ça le sera tout au long du XXIe siècle.
Alors ça, c'est ce qui pourrait changer, ce qui pourrait évoluer, mais ce qui ne changera pas, ce qui est déjà écrit, en revanche, ce sont les variations climatiques pour les deux ou trois prochaines décennies. Qu'est-ce qui a été prévu jusqu'à la moitié de 2040 et qui, a priori, ne changera pas beaucoup?
Donc, on va continuer sur les mêmes tendances de réchauffement pour les deux ou trois prochaines décennies. Donc,
quoi que l'on fasse, hein, il faut comprendre qu'il y a une inertie qui fait que quoi qu'on fasse maintenant, ça ne bougera pas avant deux ou trois décennies.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc le CO2 qui est présent dans l'atmosphère, donc il va mettre, il met un certain temps, donc et il imprègne le climat pendant un certain nombre d'années, et donc les possibilités de le faire diminuer ne sont pas atteignables sur sur un temps trop court. Hein. Donc quoi que l'on fasse, au cours pratiquement, hein, au cours des deux prochaines décennies, donc la hausse des températures va se poursuivre à un rythme au moins équivalent de celui que l'on a connu, hein, au cours des dernières décennies, c'est-à-dire 0,3 degrés, 0,4 degrés à peu près par décennie. On a même eu un petit peu plus sur la dernière décennie. On vient de faire le bilan sur la décennie 2011-2020. C'est 0,5 degrés le réchauffement que l'on a connu en France. Donc on est sur un rythme très fort de réchauffement, et ce rythme il va se poursuivre au cours des deux prochaines décennies. L'enjeu de réduction de nos émissions, c'est pour la période 2050, mais il est considérable, puisque il faut absolument éviter ce plus 4 degrés qui serait sûrement tragique en termes d'évolution de notre climat.
Céline Guivarch, je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CIRED. Je vous ai vu un peu tiquer des yeux lorsque je lançais ce climatologue Soubérou. Jean-Michel Soubérou, quand je lui disais que finalement, quoi que l'on fasse, rien ne bougerait fondamentalement pour les deux prochaines décennies. Qu'est-ce qui vous fait tiquer là-dedans ?
Non, du tout. Ce qui me fait tiquer, c'est les implications.
Allez-y, on vous entend bien.
C'est les implications. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est effectivement que la question du changement climatique, c'est le stock de gaz à effet de serre et de CO2 accumulé dans notre atmosphère. Qu'on a déjà relâché, et on peut agir sur le flux, les émissions. Et donc, il y a une inertie forte du système. Et ça veut dire qu'on a besoin de deux types d'actions et qu'elles sont très complémentaires.
Quel type d'action ?
Voilà, on a besoin d'une action d'adaptation au changement climatique, celui qui est déjà là, qu'on observe. Hein, on a déjà des vagues de chaleur qui sont plus fréquentes qu'il y a 50 ans. On a besoin de s'adapter et on sait que ça va continuer pour 2-3 décennies. Et donc, il est important de prendre ça en compte dès aujourd'hui pour l'anticiper, pour repenser par exemple les façons dont on gère l'eau. On sait aussi que ça a des impacts sur les débits des rivières, particulièrement en été.
Sauf que le mot eau apparaît rarement dans les accords internationaux sur le climat, c'est à noter ça quand même. On parle rarement de l'eau.
On parlera le moment de l'eau, c'est dommage. Là, je parle vraiment pour la France. Hein. Y a déjà des débits d'étiage, par exemple, qui sont 20% en deçà de ce qu'on avait dans le bassin de la Garonne. Et ça, on sait que ça va continuer, donc on a besoin de prendre ça en compte. Mais on sait aussi que si les émissions mondiales continuent à la hausse, à un moment donné, on ne peut plus s'adapter. Et donc, il est aussi... Et parce qu'on a une inertie, il est aussi urgent d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, précisément pour éviter ce scénario du pire dont parlait Jean-Michel Soubérou.
Et vous avez été récompensé l'an dernier pour un prix, pour le prix de la jeune femme scientifique pour vos travaux sur la modélisation justement des conséquences économiques du changement.
Irène Joliot-Curie.
Exactement, pour les changements climatiques. Sur cette modélisation, on parlait de l'eau. Qu'est-ce qui va changer en France par exemple ? Qu'est-ce qui doit changer en France dans votre modèle à la fois économique et de l'utilisation sur l'eau spécifiquement ?
Alors, en l'occurrence, j'ai parlé de l'eau. Moi, personnellement, je suis pas...
Vous êtes plus sur l'économie,
moi. Je suis pas spécialiste de la question de l'eau, mais c'est une question importante d'adaptation.
C'est une question économique aussi, l'eau.
Tout à fait, c'est une question économique.
Avec des inégalités mondiales, il y en a pour l'environnement général, mais l'eau particulièrement.
Oui, tout à fait. Et en France, les différents usages de l'eau pour l'agriculture, pour le refroidissement de centrales, pour les écosystèmes, sont des enjeux importants à prendre en compte dès maintenant.
Et ces bouleversements climatiques pour les régions françaises, elles auront quelles répercussions économiques, par exemple ?
Des répercussions économiques vastes selon les différentes régions. Il y a toutes les régions littorales qui sont donc menacées par la montée du niveau de la mer et donc les activités qui sont installées à ces endroits-là. Il est,
le tourisme, tout ça va être impacté forcément.
Forcément, l'habitat également. Si on pense aux régions de montagne, donc en ce moment, la question de l'activité économique dans les régions de montagne dépendantes du tourisme d'hiver, là aussi, vous avez une question. Et bien évidemment, plus largement, quand vous avez des vagues de chaleur qui sont fréquentes et qui sont intenses, ça pose une question assez transversale sur le fonctionnement de nos sociétés, de nos économies, sur la vulnérabilité à ces vagues de chaleur, sur l'adaptation de nos villes à ces vagues de chaleur.
Vous allez participer là à la préparation du prochain GIEC. En 2014, c'était le cinquième GIEC, il était dit que nous avions les moyens de limiter les changements climatiques et de bâtir un avenir plus prospère et plus durable. Est-ce que 7 ans après, vous diriez la même chose ?
7 ans après, on a toujours les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les solutions, elles sont connues. On sait d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. Hein, la combustion d'énergie fossile, donc de charbon, pétrole, gaz, la déforestation, l'élevage de ruminants, l'usage d'engrais azotés. Donc on sait d'où elles viennent et des solutions existent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, 7 ans après, il y a pendant 7 ans des gaz à effet de serre, en particulier du CO2, qui a continué à s'accumuler dans notre atmosphère. Et donc, on est dans une moins bonne position. Pour arriver au même résultat, il faut réduire plus vite les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est en ça qu'on dit aujourd'hui qu'on est face à une urgence de l'action.
Est-ce que la sensibilisation du public, qui est là maintenant, peut peser dans la balance ?
Complètement. Aujourd'hui, dans les sondages, par exemple, même dans un contexte pandémique en France, une des premières préoccupations des Français, c'est le changement climatique. Et quand on demande, il y a des sondages qui ont été faits l'an dernier, est-ce que vous êtes favorable à une action forte sur le changement climatique ? Vous avez 91% des Français qui répondent oui. Dans la tranche d'âge 18-24 ans, 98%. Donc il y a une envie d'action.
La Convention citoyenne qui va générer la prochaine loi sur le climat, elle avait justement préconisé de jouer sur les leviers financiers avec des incitations fiscales, avec des investissements publics ou des mesures sociales aussi. Finalement, l'exécutif Emmanuel Macron n'en prendra qu'une partie. On se rend bien compte, Céline Guivarch, qu'il sera très difficile, voire impossible, d'aller contre les intérêts financiers.
Voyons de quels intérêts on parle.
L'industrie en général, la grosse industrie pétrolière, l'industrie, ça va être difficile d'aller contre leurs intérêts.
Certainement. Maintenant, on peut quand même se réjouir. Il est de plus en plus risqué aujourd'hui d'investir dans les énergies fossiles. On le voit. Donc les choses sont en train de changer. On est en train, et y compris le monde des investisseurs, est en train de se rendre compte que il y a cette question du changement climatique qui pose un risque par les impacts du changement climatique, mais qui pose aussi un risque de continuer à investir dans les activités qui causent le changement climatique.
Mais les politiques climatiques, elles peuvent être, et ça vous l'avez je crois bien montré, régressives ou progressives. On voit bien que quand c'est 10% des ménages qui sont responsables de 45% des émissions à effet de serre, il y a là une inégalité et que ce sont les plus modestes qui risquent de payer la facture la plus élevée finalement.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des grandes intersections entre la question climatique et la question des inégalités. D'abord, sur la question de l'exposition et de la vulnérabilité aux impacts du changement climatique, ce sont les pays, les communautés et les individus les moins riches qui sont les plus exposés et qui sont les plus vulnérables.
Et qui ont aussi envie de se développer. Donc comment ne pas à la fois entraver le développement de certains pays et obtenir un point de convergence entre les pays finalement.
Et de l'autre côté, c'est à l'inverse, les pays et les individus les plus riches qui ont contribué et continuent à contribuer de façon disproportionnée aux émissions de gaz à effet de serre.
Jean-Michel Soubérou, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la climatologie à Météo France. Vous aviez donc envisagé trois simulations en France, selon la baisse ou au contraire l'augmentation des rejets carbonés, jusqu'à une hypothétique neutralité en 2070. De quoi dépendrait d'ailleurs cette hypothétique neutralité en 70, vous l'aviez identifiée?
Donc, les simulations qui ont été prises en compte donc dans le rapport Dria, ce sont les simulations qui sont proposées par le GIEC, hein, donc au niveau international. Donc, il y avait principalement trois scénarios qui étaient disponibles sur l'Europe. Donc, effectivement, donc un scénario donc qui poursuit les émissions de manière continue tout au long du XXIe siècle, un scénario qui visait à une stabilisation donc aux alentours de 2050, donc et puis donc voilà quelque chose donc qui irait un petit peu dans les engagements actuels peut-être des différents pays, et puis un scénario qui dès la prochaine décennie marquait une forte inflexion de nos émissions là pour arriver à une neutralité carbone avant la fin du XXIe siècle. Donc c'est celui-là. Donc ce qu'on a montré, c'est que effectivement pour la France, hein, puisque donc l'intérêt de ce scénario, c'était de regarder ce qui allait se passer à plus fine échelle sur notre territoire. Et mais celui-là, il montrait qu'après une hausse des températures, donc qui était donc incontournable pour les prochaines décennies, ensuite donc on pouvait pratiquement revenir aux températures que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est quand même un scénario de l'espoir. Si effectivement l'action est au rendez-vous.
Jean-Michel Soubérou, votre enquête de Météo France sur les bouleversements climatiques, elle concerne essentiellement la France métropolitaine. Un mot tout de même sur les départements et territoires d'outre-mer qui nous écoutent d'ailleurs, les Antilles, Guyane, Océan Indien, Réunion, Mayotte, ou dans le Pacifique, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, et Wallis et Futuna. Est-ce que l'on sait avec une relative précision comment ces territoires d'outre-mer seraient impactés, sont déjà impactés par les changements climatiques? Et vos projections surtout?
Oui, alors donc effectivement, lorsqu'on fait un travail sur la métropole, on ne peut pas le faire en même temps sur les territoires ultramarins, parce que ça mènerait à le faire à l'échelle de la planète. Mais il y a bien sûr des travaux qui sont réalisés sur ces territoires. Donc il y a déjà eu des premiers jeux de projection climatique qui ont été produits, et actuellement il y a plusieurs projets pour les mettre à jour. Donc je pense qu'au cours de l'année 2021, il va avoir des résultats, notamment sur la Réunion, l'océan Indien et sur les Antilles, où il y a des travaux qui se terminent. Alors donc ces territoires sont aussi confrontés au réchauffement de la même façon que la métropole, avec des conséquences un petit peu différentes, donc parce que le climat est différent. Et donc par exemple pour les Antilles, le souci c'est beaucoup le risque cyclonique qui pourrait augmenter, alors non pas en fréquence mais en intensité. D'avoir des événements cycloniques plus forts, même titre que ceux qu'on avait connus au cours de cette terrible année 2017.
Et ça c'est valable pour l'Atlantique, enfin pour les Antilles, ça serait moins valable pour l'océan Indien, Réunion, Mayotte par exemple?
Alors pour l'océan Indien, je pense que l'augmentation du risque cyclonique est aussi étudiée, mais peut-être les résultats sont moins clairs aujourd'hui. Mais il y a la question en tout cas d'avoir plus de précipitations, des précipitations plus intenses lors de ces épisodes-là. Donc ça, c'est des choses que l'on commence à regarder. Et puis également la question de la hausse des températures et des vagues de chaleur, qui présente aussi des conséquences, et on est en train de l'étudier donc avec Santé publique France par exemple. Il y a des travaux en cours pour montrer la surmortalité également dans nos territoires ultramarins par rapport à ces événements de vagues de chaleur qui deviennent plus fréquents et des nuits qui sont beaucoup plus chaudes qu'avant, et avec des considérations des vagues de chaleur qui sont très différentes de chez nous. On a des événements qui sont moins, avec des pics moins marqués, mais par contre qui durent plus longtemps, donc qui sont aussi très difficiles à supporter pour les organismes.
Eh bien merci d'être venu éclairer nos lanternes ce matin sur France Inter. Céline Guivarge, directrice de recherche au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Merci également à Jean-Michel Soubérou, donc directeur adjoint de la climatologie à Météo France.